Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon émission Le monde des mots et des mythes. Moi c'est Elicia et aujourd'hui je vais vous parler littérature avec une romance et mythologie avec un mythe dont je suis sûre que vous en avez tous entendu parler. Mais avant toute chose, on commencera avec le petit point info. Je vous souhaite une très bonne écoute. Après avoir attendu 3 ans, la saison finale de Stranger Things sort enfin. On va pouvoir retrouver la mignonne petite ville de Hawkins avec 11 et ses amis le 10 octobre pour la première partie et le 27 novembre pour la seconde partie. Je tiens à préciser que ces dates correspondent à la sortie aux États-Unis, nous n'avons pas encore les dates de sortie française. Pour continuer dans cette lancée de bonnes nouvelles, DreamWorks nous a annoncé le retour de Shrek. Et oui, ce dessin animé avec lequel certains ont grandi revient, avec un tout nouveau personnage à qui Zendaya prête sa voix, qui n'est d'autre que la fille de Shrek et Fiona. La sortie est donc prévue pour Noël 2026.
Hey Magic Mirror, who's the fairest of them all?
Why, Shrek, of course.
Ah! Ew, Dad!
Ooh, Mom and Light.
Who's making this stuff?
Not me!
Whoa! Shrek 5. Starring Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, and Zendaya? Oh damn! Only in theaters, Christmas 2026!
Pour des sorties qui arrivent cette année, on a Zootopie 2 qui se déroulera à Shanghai, qui sortira le 28 novembre, et Avatar 3 qui lui sortira le 17 décembre. Nous avons également les possibles dates à laquelle sortiront le Avatar 4 et le Avatar 5, qui sont le 21 décembre 2029 et le 19 décembre 2031. Ces deux dates paraissent lointaines et l'attente sera longue. Nous espérons tous que ça vaille le coup. Pour finir sur les films, on nous a annoncé récemment un retour des Pirates des Caraïbes, mais nous ne sommes pas vraiment sûrs que Johnny Depp reprendra son rôle du célèbre Jack Sparrow. La sortie serait donc prévue pour 2027. Et pour finir, Christopher Nolan travaille actuellement sur son nouveau film The Odyssey, ou en français L'Odyssée, avec dans le rôle principal Matt Damon et dans les rôles secondaires Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson ou encore Anna Taway. En voilà un sacré casting. Et je vous parlerai de cette histoire en fin d'émission, car oui, elle a un côté mythologique. Du côté des livres, je n'ai pas pu trouver de prochaine sortie, mais récemment, le 27 mars, sont sortis deux livres. L'un que j'aime tout particulièrement, et l'autre que je n'ai pas encore découvert. Le premier est le tome 3 d'une saga que j'adore. Il s'appelle Wisteria de Adaline Gress. Par ailleurs, je vous conseille vivement d'aller lire le tome 1 et 2, Belladonna et Foxglove. Mais pas d'inquiétude, je vous en parlerai dans une autre émission. Pour le second livre, il est d'une autrice nigérienne que je viens tout juste de découvrir par le biais de ma professeure documentaliste. Elle s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie. Son premier livre est sorti il y a 12 ans, il s'appelle Americana. Et celui qui vient de tout juste de sortir s'appelle L'inventaire des rêves. Pour aujourd'hui et le côté littérature, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai lu lorsque j'étais en 3e. Un livre qui a eu un impact sur ma vision de certaines choses à une époque où tout était un peu comme sombre pour moi, à une époque où je pourrais me qualifier de naïve. Étrange de se dire qu'un livre peut changer beaucoup de choses. Ce livre, c'est 7 jours pour une éternité de Marc Lévy. Ce livre raconte le destin de l'humanité, un destin lié par un défi que se sont lancés Dieu et Lucifer. Quel est ce défi? Simple, déterminer qui, du bien ou du mal, régnera pour toujours sur l'humanité. Pour cela, ils envoient chacun un agent sur Terre. Zofia, une douce et déterminée jeune femme qui ne ferait pas de mal à une mouche, et Lucas, un homme quelque peu grincheux et prêt à tout pour gagner. Dieu et Lucifer avaient tout prévu de A à Z. Tout ? Non, ils n'avaient pas prévu que Zofia et Lucas se rencontrent. Ce n'était pas dans leur plan, plan qui va vaciller, car que donne la force d'un ange et le charme d'un démon ? Un amour. Ça donne un amour impossible. Afin de vous mettre dans le bain, je vais vous lire une partie du livre. L'amour, c'est une parcelle d'espoir, le renouvellement perpétuel du monde, le chemin de la terre promise. J'ai créé la différence pour que l'humanité cultive l'intelligence. Un monde homogène aurait été triste à mourir. Et puis, la mort n'est qu'un moment de la vie pour celui ou celle qui a su aimer ou être aimé. Et puis, c'est une belle idée que celui qui trouve son autre moitié devienne plus abouti que l'humanité tout entière. Ce n'est pas l'homme qui est unique en soi. Si je l'avais voulu ainsi, je n'aurais créé qu'un. C'est lorsqu'il commence à aimer qu'il le devient. La création humaine est peut-être imparfaite, mais rien n'est plus parfait dans l'univers que deux êtres qui s'aiment. Je vais te confier un grand secret, la seule et unique question que je me pose depuis le premier jour. Est-ce vraiment moi qui ai inventé l'amour, ou est-ce l'amour qui m'a inventé ? Cette partie de texte que j'ai choisie est un moment très intense du livre. Je ne vous ferai pas de contexte pour attiser votre curiosité et votre envie d'aller le lire. Je vais vous dire maintenant pourquoi j'ai principalement choisi de vous le présenter. Alors, certaines raisons sont celles que j'ai présentées au début, car en effet, l'époque de ma vie où j'ai été très naïve, une époque où tout le monde me marchait dessus finalement, qui est un peu trop longue à vous raconter, je vous en passerai les détails. Grâce à ce livre, j'ai pu du coup finalement peut-être faire un point sur tout ce qui était bien et tout ce qui était mal. Ça m'a ouvert du coup un peu sur le monde et sur à quoi il représentait vraiment. Car même si ça peut paraître étrange, ce simple livre a vraiment pu me montrer la différence que ça faisait d'être quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal. Ça m'a montré également que le bien triomphera toujours, et peu importe la manière, que ce soit le mal qui le laisse gagner ou que ce soit une bataille très sanglante. Ça montre également qu'un personnage qui est une personne même, qui est méchante, pour certaines personnes, n'est pas obligé de l'être pour d'autres personnes. Que s'il est méchant, il a peut-être une raison de l'être avec ces personnes. Et que même s'il est méchant, il a derrière un cœur, et que ce cœur, peut-être qu'on peut l'ouvrir. Il y a un tas d'autres raisons, mais je ferai que me répéter si je continue de vous en parler. Mais il est vrai que si je le lisais aujourd'hui, je le verrais sûrement sous un autre angle, vu que j'ai grandi, que je vois le monde encore différemment. Et je sais que si vous le lisez aussi, vous le verrez sous un tout autre angle que le mien, vu que vous n'avez pas vécu les mêmes choses que moi. Afin de faire une petite pause maintenant, toujours dans le but de vous faire partager ma passion pour la K-pop, j'ai aujourd'hui décidé de vous faire écouter la musique dont je ne peux plus du tout me séparer, car elle me rappelle de trop bons souvenirs. Elle s'appelle Whiplash, elle est de Aespa. One look, give them whiplash. Beat drop with a big flash. 집중해 좀 더 think fast. 이유는 언니의 못해. Wait, they know I did that. They won't know I've been bad. Don't stop in the link chat. 무리해도 can't touch that. Under pressure, body sweating. Can you focus? All the sound I got your mouth. I'm the coldest. 오직 나만 내 입안을 바꿀 진실. With a big flash 집중해 좀 더 think fast 비운 언니의 못해 이제 know I did that They wanna know I've been bad Don't stop 하늘인 chat 무리해도 can't touch that Whip whip flash Whip whip flash
Give gave him whiplash. Beat drop with a big flash. That'll walk us to move fast. You know, you more tan. Wait, you know, I did that. They want no, I've been bad. Don't stop until in chat. Like I want to can't touch that. Whip, whiplash. Whip, whiplash. Whip, whiplash.
Voilà, la petite pause musicale est maintenant terminée. Nous allons donc passer à la partie mythologique. Comme je vous le disais dans le début de l'émission, on va aujourd'hui parler de l'Odyssée. La base de ce que je vais vous raconter vient bien sûr des deux œuvres d'Homère, l'Odyssée et la guerre de Troie, mais également de mes recherches et d'un livre que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle « Croustillante mythologie » et il est écrit par Delphine Gaston Sloan. Cette histoire est donc le récit d'un héros de guerre. Pas n'importe laquelle, puisque c'est la guerre de Troie. Il a un nom que je suis sûre qu'il ne doit pas vous échapper. Il est connu pour sa ruse du cheval de Troie. Il est l'un des plus grands héros de cette guerre. Il s'appelle Ulysse. Et dans cette histoire, il doit rentrer chez lui, à Ithaque, rejoindre sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Mais sur le chemin, il rencontrera des difficultés, suite à la colère d'un dieu, en particulier, qui n'est d'autre que Poséidon. Mais pour comprendre le contexte de tout ça, il faut remonter à un peu plus loin. Un peu plus loin, bien avant la guerre de Troie. C'était un magnifique jour sur le mont Olympe. Tout le monde était heureux, buvait et dansait, pour célébrer le mariage de Thétis et Pélée, parents du célèbre héros Achille. Tous les dieux étaient présents, tous sauf Eris, déesse de la discorde. Déçue et en colère de ne pas avoir été invitée, Eris se met sur son 31 et débarque à la réception avec un petit cadeau. Une pomme, mais pas n'importe quelle pomme, une pomme en or. Eris sortit la pomme et dit que celle-ci doit appartenir à la plus belle d'entre toutes. Alors là, vous pouvez oublier le mariage. Thétis n'est plus la mariée, n'est plus la plus belle, c'est juste une simple déesse. C'est Aphrodite, Héra et Athéna qui prennent les devants et qui se bataillent pour avoir cette pomme. Cette pomme de la discorde. Zeus, ne pouvant pas choisir entre sa tante, sa femme ou encore sa fille, décide de choisir un humain innocent, Paris. On lui demande de choisir entre les trois déesses. Mais, trouvant que leurs beautés sont à égale, il leur dit qu'il ne peut pas choisir. Les trois déesses déterminées à gagner choisissent de l'amadouer en leur proposant chacune quelque chose. Héra lui offrira un château et du pouvoir. Athéna lui offrira la victoire et la gloire. Quant à Aphrodite, elle lui offrira la plus belle femme du monde dans son lit. Pour Paris, le choix fut rapide. Un château, il en a déjà un. La gloire, il n'en veut pas. Mais par contre, la belle Hélène, il dit pas non. Après quelques voyages, il se retrouve chez Ménélas, à Sparte. Il est le mari de la belle Hélène. Paris prit sa chance, rappela Aphrodite et lui demanda de tenir sa promesse. Ni une ni deux, Aphrodite fit tomber Hélène, follement amoureuse de Paris. Les deux amants s'enfuient pour Troie. Et cette guerre entre déesses provoque la guerre entre les humains. Ménélas réunit ses plus grands amis de guerre. Parmi eux, Ulysse, mais aussi Achille ou encore Agamemnon. Deux camps se forment chez les hommes, les Grecs et les Troyens. Mais aussi c'est les dieux. Aphrodite, bien sûr, se range du côté de son favori, chez les Troyens. Quant à Héra et Athéna, elle se range du côté des Grecs. Poséidon, en colère contre les Troyens car ils ne le traitaient pas bien, se range volontairement du côté des Grecs. Ainsi se lance la guerre de Troie. On va faire un grand bond dans le temps. Les Grecs gagnent la guerre grâce à la ruse du cheval de Troie. C'est le moment de partir pour notre héros. Sa femme et son fils lui manquent et eux l'attendent patiemment à Ithaque. Le voyage commence en douceur. Mais cela ne durera pas. Sa première escapade se fait chez les Cicones, dans la ville d'Ismarès. Là-bas, ils vont massacrer plusieurs habitants. Pour se venger, les Cicones tuent de nombreux hommes d'équipage. Ulysse repart en mer avec qu'une partie de son équipage. Alors que son début de voyage se déroule tranquillement, il propose de s'arrêter sur une île. Sur cette île se trouve un cyclope, Polyphène. Celui-ci se mit à dévorer les membres de l'équipage d'Ulysse Alors, celui-ci décida d'user, encore une fois, de sa ruse. En se présentant sous le nom de personne, il va pouvoir agir dans l'anonymat. Et à l'aide de ses compagnons, il va crever son œil. Une fois l'œil crevé, ils reprennent la route. Poséidon, inquiété par les cris de son fils, oui, Polyphène est son fils, il va le voir et lui demande qui lui a fait ça. Mais là se montre la ruse d'Ulysse, car en effet, se présenter en tant que personne, Polyphène ne pouvait donc pas faire comprendre à son père que c'était lui. Mais Poséidon n'est pas bête, il suit Ulysse de près depuis qu'il est parti de Troie. Alors, il comprit vite que c'était lui le coupable. La colère le monta et il décida de se venger. Peu importe la manière, il prévoit de faire tarder son voyage, voire même de ne pas le faire rentrer chez lui. Ulysse reprit son voyage tranquillement. Mais très vite, d'autres péripéties arrivent. Premièrement, chez Éole, qui va lui offrir les outres des vents. Ils ont bien évidemment interdiction d'ouvrir cette boîte, et pourtant, certains le feront et vont libérer tous les mauvais vents. C'est ainsi qu'ils se feront bannir d'Éole. Puis plus tard, ils arriveront sur l'île de Lestrigon. Une partie de l'équipage se feront massacrer. Et juste à temps, Ulysse et certains de ses coéquipiers réussiront à s'enfuir. Mais à peine sortis, devinez qui se retrouve dans les filets de la sorcière Médée. C'est bien notre héros et son équipage. Petit à petit, Médée transforme les compagnons d'Ulysse en cochons. Mais encore une fois, par la ruse d'Ulysse et une partie de son équipage, ils arrivent à déjouer le sort. Ainsi, il demande la libération de ses camarades et repart aussitôt. Puis, de son propre gré, il se rend au royaume d'Hadès pour aller voir Thérésis. Celui-ci va lui lire son avenir et le conseiller sur ses prochaines épreuves. Il repart au courant du moindre détail de son avenir. Alors qu'il arrive vers les sirènes, il demande à ses compagnons de l'attacher au mât du bateau et de ne jamais le détacher, même s'il le demande. Et il faut que eux se mettent de la cire pour ne pas entendre le chant des sirènes. Ce chant maléfique, aussi beau soit-il, rend fou et donne envie de se tuer. Après les sirènes, ils sont tombés sur les monstres Charybde et Scylla. Cela leur a valu de très grandes pertes. Et si vous pensez que c'est fini, c'est que vous avez oublié la colère de Poséidon. Ni une ni deux, il provoque un naufrage. Mais c'est sans compter sur notre héros et un petit groupe qui survit et qui se font sauver par la déesse Calypso. Celle-ci, par ailleurs, va tomber amoureuse d'Ulysse et va le garder 7 ans avec elle, jusqu'à ce que Zeus lui demande de la libérer. Ce qu'elle fait malheureusement à contre-cœur. Vous allez vous demander, à ce point, si sa femme l'attend ou si elle s'est remariée. Eh bien non, Pénélope est très fidèle à son mari. Malgré toutes les demandes en mariage, elle résiste. Malgré que plus personne croit au retour de leur roi, elle y croit encore. Alors elle met en place un plan et dit à tout son peuple qu'elle prendra pour époux quelqu'un d'autre une fois qu'elle aura fini de tisser sa toile. Et chaque jour elle tisse et chaque nuit elle détisse. Vraiment, c'est une femme fidèle à son mari. Pour finir son voyage, Ulysse subit encore un naufrage. Mais cette fois-ci, il atterrit chez son ami, le roi Alcinous. Celui-ci lui explique un peu les nouvelles d'Ithaque et lui explique ce qui se passe en ce moment avec sa femme. Ulysse va utiliser une dernière fois sa ruse. Il rentre à Ithaque, mais personne ne sait que c'est lui. En effet, il s'est déguisé. Pourquoi ? Voilà ce que son ami lui a dit. Les hommes de la ville en ont eu marre et ont forcé Pénélope à choisir un nouveau mari. Alors, afin de gagner un peu de temps encore, elle donna une épreuve d'archer. Il arrive à l'épreuve sous l'apparence d'un vieil homme et réussit haut la main. Il finit par reprendre son apparence, sa femme et son royaume. Voilà la fin de l'histoire de l'Odyssée. Maintenant, vous allez pouvoir regarder le film quand il sortira, tout en sachant la vraie histoire. Nous voilà maintenant à la fin de l'émission. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez encore une fois apprécié ce moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode. C'était Alicia et je vous remercie de m'avoir écoutée.